Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Plusieurs personnes tuées et d'autres blessées. C'est le bilan d'une attaque menée la nuit dernière par le chef Maïmaï Tcheka contre l'opposition des FRDC dans la cité de Pinga. Pendant ce temps, dans les territoires de Beni, on signale l'assassinat de 5 chefs coutumiers dans un espace de 6 mois par des présumés rebelles à Def Nalu. Quelle lecture faire de la situation sécuritaire actuelle au Nord Kivu? Nous en parlons avec Feller Lutai Shiwa, il est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Il va nous rejoindre dans peu de temps. Thomas Dakin-Mouiti, il est président de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Thomas Dakin-Mouiti.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à son excellence, le vice-gouverneur. Bonsoir à notre ami qui va intervenir avec nous dans l'émission.
Jean-Jacques Wondo, il est analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Wondo.
Bonsoir, monsieur journaliste. Bonsoir, monsieur Thomas Dakin. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio K.
Plusieurs réactions dans cette émission, parmi lesquelles celle des Pepe Lisungi de Kisangani en province orientale. Je me demande si hier le M23 et la LRA ont été vaincus. Il faut attendre combien de temps pour que les ADF Nalu, les Mai Mai et les FDLR soient défaits. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au moins 4 militaires FRDC tués la nuit dernière et plusieurs personnes blessées parmi lesquelles des civils. Bilan d'une attaque armée en territoire de Walikale menée par le chef Maïmaï Tcheka sur les positions des FRDC à Katanga dans la cité de Pinga. Selon nos sources, les forces armées de la RDC ont riposté à l'attaque et ont réussi à chasser l'ennemi. Pour l'instant, un calme relatif règne dans cette cité qui reste toutefois sous contrôle des FRDC appuyés par la MONUSCO. Le point avec Sifa Maguru.
Il était 23 heures lorsque les combattants d'Induma Defense of Congo ont ouvert le feu sur les positions des FARDC à Katanga. Pendant plus de 40 minutes, les forces armées de la RDC se sont affrontées à ces combattants, indiquent des sources des ONG basées dans cette région. Les combattants du NDC ont décroché par la suite. Ils sont actuellement localisés autour de Pinga, précisent nos sources. Dans cette attaque, on parle d'au moins 3 soldats FARDC tués. Parmi les blessés figurent 2 militaires FARDC et 3 civils, dont un enfant et une jeune fille de 19 ans. Tous les blessés sont admis à l'hôpital général de Pinga, qui du reste est protégé par la MONUSCO, où ils reçoivent des soins d'urgence. Les contingents irigoyens de la MONUSCO basés à Pinga appuient les FARDC à protéger les civils. On parle d'au moins 1000 habitants qui ont trouvé refuge autour de la base de la MONUSCO à Pinga à l'issue de cette attaque. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, dans les territoires de Beni, le chef de la chefferie de Watalinga demande plus de sécurité pour le chef coutumier de son entité. Un appel qui intervient après l'assassinat des 5 chefs coutumiers de cette chefferie en l'espace de 6 mois par des hommes armés présumés ADF Nalu. Thomas Dakin-Mouiti, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Quelle lecture faites-vous de cette situation sécuritaire au Nord Kivu en ces débuts d'année 2014?
Écoutez, quelle peut être la lecture d'une personne responsable d'une société civile organisée? Je pense que c'est la désolation. Je préfère commencer par m'acquitter d'une obligation.
Je vous en prie.
Oui, c'est de souhaiter mes meilleurs voeux à tous les acteurs, à toute la population de la province du Nord Kivu qui vient d'endurer pendant une vingtaine d'années des souffrances indescriptibles. Pour cette année 2013, mon état de santé ne m'a pas permis de m'acquitter de cette obligation pour souhaiter mes voeux le meilleur à cette population et j'ai profité de cette occasion qui m'est offerte pour le faire.
Voilà.
Écoutez, après ça, la société civile, elle est vraiment préoccupé par la situation actuelle et au niveau des Beni, au niveau des Pinga, au niveau des Masisi, au niveau des Niragongo, la situation, elle est vraiment préoccupante. S'il faut que je passe par une petite description et essayer de renforcer ce qu'a dit Madame Sifamagou, c'est de dire que en dehors de toute cette population qui est gardée à la base de la MONUSCO, ce soir, nous venons de recevoir déjà certains blessés en provenance de Pinga. Et nous profitons de cette émission pour dire merci au contingent de la MONUSCO qui a pu faciliter le déplacement de ces blessés jusqu'à Goma. Voilà, et donc pour le reste, je suis entièrement disposé à répondre à vos questions. Mais pour la première question, la société civile, elle est sérieusement consternée par la situation actuelle.
Monsieur Thomas Dakin Mouti, avec l'attaque des Pinga par les Mai Mai Tcheka, peut-on dire que après la défaite du M23, ces Mai Mai Tcheka constituent une menace considérable et dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible?
Écoutez, la première chose, c'est de dire qu'il y a eu une défaite du côté du M23. Mais le suivi au niveau de ceux qui devaient continuer à faire quelque chose, les éléments du M23 qui ont été vaincus, jusque-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Le Rwanda a gardé depuis 98 les rebelles qui ont menacé la sécurité congolaise, en commençant par M. Mutebuzi, en continuant avec Laurent Kunda, les éléments du M23, et tous les autres, les pasteurs Runiga, tous ces gens-là, la question c'est de dire, ils sont où? Le gouvernement congolais devrait connaître et comprendre ces ennemis-là quand ils sont gardés chez leurs parrains. Est-ce que la sécurité congolaise, elle est garantie, elle est protégée? Je cite en même temps le groupe qui était appuyé par le Rwanda à l'instar du M23. C'est le groupe de Nduma Defense. Nul n'ignore que c'est un groupe qui est appuyé par le Rwanda, qui a reçu des armes, des munitions et même des hommes qui travaillent aux côtés de Tcheka et qui sont là. Et à un certain moment, nous avons été en contradiction avec les autorités de la MONUSCO en disant que Tcheka vient d'être délogé de Pinga. Nous avons dit que ce n'est pas vrai. On ne peut pas croire qu'une personne, un ennemi de la paix, est déplacé de la cité de Pinga et renvoyé dans une petite forêt à côté de Pinga et croire qu'il y a la sécurité à Pinga. Nous l'avons dit à son temps et nous pensons que c'est ce qui se manifeste aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir demandé à Tcheka de quitter la cité et les gens ont applaudi en croyant que quitter Pinga sans armes, c'était une solution. Nous avons dit que ce n'était pas une solution en soi. Et voilà ce qu'il vient de faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à son temps, nous avions dit que l'armée congolaise était sérieusement infiltrée. Et il y a deux jours, nous avons été informés que Tcheka était en train de préparer un assaut sur Pinga. Je pense que les autorités à qui nous avons transféré les SMS acceptent que nous leur avons dit qu'il y aura une attaque à Pinga et que il y avait une des autorités des FRDC qui était en intelligence avec les troupes de Tcheka pour qu'ils viennent prendre certaines munitions, certaines armes, et qu'ils continuent les opérations. Et donc, ça c'est aussi un élément important qu'il faut reconnaître qu'à l'intérieur des FRDC, il y a une situation qui doit être urgemment gérée et reconnaître qu'il y a des bandits, qu'il y a des infiltrés, qu'il y a des judas, des traîtres à l'intérieur des FRDC. Et cela s'est manifesté à Beni lorsque nous avons contredit le ministre de la Communication en disant que c'était les Thaddée Sinalo qui venait de tuer Mamadou, nous avons dit que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne affaire. Se précipiter à dire ça, nous avons dit qu'il fallait attendre qu'il soit mené une enquête crédible, neutre et transparente. Et deux, trois
Merci,
jours
Thomas
après, on nous a informé qu'effectivement, il y avait une complicité de certains éléments FRDC, le téléphone d'un garde de corps qui a été retrouvé sur le lieu du drame. Et donc, voilà, en quelque sorte, monsieur le journaliste, ce que nous pouvons fustiger jusque-là.
Merci Thomas Dakemouti, nous allons vous redonner la parole. Fele Reoulouta-Chiroua, vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Tcheka attaque les positions des FRDC à Pinga au Nord Kivu et fait 4 morts parmi les militaires de l'armée nationale. Et à Beni, 5 chefs coutumiers sont assassinés dans un espace de 6 mois. Comment analysez-vous la résurgence de l'insécurité dans cette partie du pays quand on se rappelle que depuis la défaite du M23, une accalmie relative s'y était installée?
Oui, au fait Alain, je profite aussi de l'occasion pour saluer Mustapha et saluer en même temps M. Wondo. Il se fait que le rétablissement de la paix, c'est un processus. Après le fait qu'on ait bouté le M23 hors du territoire, il se fait que le M23 n'avait pas été entièrement anéanti. Il y a des éléments qui s'étaient déplacés, des éléments qui pouvaient renforcer aussi d'autres groupes armés. Il est éventuel de penser que il en serait ainsi, par exemple, pour les ADF Nalu. Mais il se fait aussi que le M23 avait aussi des alliés parmi les groupes armés. Il en est ainsi pour le MDC. Nous devons saluer le fait que après le fait qu'on ait bouté hors territoire le M23, il y a eu beaucoup de groupes armés qui avaient souscrit à la paix et qui s'étaient rendus. Mais hélas, il y en a quelques groupes armés, parmi lesquels les groupes armés étrangers, et quelques groupes armés congolais, dont les Tcheka avec le MDC, qui manifestement persistent dans leur état de rébellion contre le gouvernement et contre les partenaires du gouvernement. Et c'est pour ça que les mécanismes sont en train d'être mis en place pour leur anéantissement. Et donc nous pensons que la présence du chef d'état-major général dans notre province à Beni, c'est une présence éloquente que la planification est en cours et ensemble avec les partenaires, la MONUSCO et tous les partenaires qui nous appuient, il y a lieu d'espérer que les activités futures pourront permettre à l'anéantissement de tous ces groupes des bandits qui ne cessent d'endeuiller la population nord-kivu.
Monsieur le vice-gouverneur, nous rappelons qu'à un moment donné, il y avait des négociations entre la partie gouvernementale et Tcheka pour une éventuelle reddition de ces derniers, donc des Tcheka. Sur quoi avaient débouché ces différentes négociations?
En fait, il n'y a jamais eu de négociations à proprement parler, mais il y a eu des dynamiques de sensibilisation à ce que les brebis égarées puissent regagner le bercail. Et il en a toujours été ainsi à l'égard de tous les groupes armés constitués des Congolais, en se disant que si par cette approche de conciliation, de sensibilisation et de conscientisation, les groupes armés pourraient, les membres des groupes armés pourraient retourner en abandonnant les armes ou soit en remettant les armes. Mais il n'y a jamais eu de négociations avec avec les groupes armés, à part les accords qu'il y avait eu le 23 mars qui étaient avec le CNDP, mais aussi avec les autres groupes armés congolais. Et à part cela, il n'y a jamais eu de négociations. Et nous, nous pensons qu'avec l'évolution de la situation, nous n'en aurons plus jamais besoin, parce que c'est une situation qui crée plus d'effets pervers. Et le gouvernement, vous avez suivi la position du gouvernement égard au recrutement en cours, au renforcement des FARDC, aux réformes des services de sécurité. Et nous pensons qu'il y a lieu de faire confiance que
Monsieur le vice-gouverneur,
on pourra anéantir tous ces groupes armés.
Monsieur le vice-gouverneur, la cité de Pinga, c'est une cité qui est censée être sous le contrôle des FARDC et de la MONUSCO depuis plus de deux mois. Cette attaque des Tcheka ne peut-elle pas s'expliquer par le fait que les villages aux alentours de la cité de Pinga sont toujours occupés par les Maïmaï Tcheka?
En fait, nous devons reconnaître qu'il y a encore pas mal de groupes armés résiduels qui n'ont pas encore manifesté clairement la volonté de sortir du maquis, de sortir de leur retranchement. Il y a Tcheka qui était juste sorti de Pinga, mais autour de Pinga, il y a lieu de parler des FDLR. Il y a lieu de parler des Nyatura résiduels. Il y a janvier des APCLS qui est juste à quelques kilomètres de Pinga au niveau de Lupeti. Et donc, par-ci par-là, il y a des groupes armés résiduels qui sont parsemés par-ci par-là. Et alors, à part les appels et les moratoires qui avaient été donnés, et nous pensons qu'au niveau des FARDC, des dispositions sont prises pour que, en tout cas, les irréductibles puissent être soumis à la force de la loi, et que ceux qui ne comprendront pas puissent vraiment être anéantis comme groupes armés.
Oui, monsieur le gouverneur, le vice-gouverneur, lorsque Tcheka avait été délogé de Pinga, pourquoi la FARDC n'avait pas étendu leurs opérations au-delà de cette cité afin d'éloigner davantage la menace? Peut-être que si cela avait été fait à l'époque, on aurait, n'est-ce pas, prévenu l'attaque d'hier.
Bon, il faut considérer que l'attaque d'hier, c'était une attaque surprise. C'est presque la méthodologie des guerrieros, presque du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont surgi, ils ont surpris. Et puis, du point de vue géographique, Pinga est pratiquement dans une cuvette triangulaire, entourée par des collines et des montagnes toutes couvertes de forêts. Et il se fait que M. Tcheka, on pensait qu'il était suffisamment éloigné. Et nous devons saluer la bravoure malgré la perte que nous avons essuyée à Pinga. Les FARDC ont quand même réussi à repousser l'attaque.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». Environ deux mois après la signature des déclarations de Nairobi sur la fin des pourparlers avec le M23 et l'accalmie observée au Nord Kivu, nous assistons aujourd'hui à un regain des tensions dans cette partie du pays. Et comment vous analysez cela?
Oui, il faut d'abord relever que cette insécurité n'est pas uniquement limitée au Nord Kivu. Elle concerne également la province orientale, le Sud Kivu, le Katanga, le Maniema, et depuis peu l'Équateur et avec l'afflux des combattants de la CDK qui fuient lors des armements nord-séens. Parce qu'aujourd'hui, on signale déjà des mouvements de troupes à Guémena et à Dagolité, mais aussi avec des événements qui se sont déroulés le 30 décembre. Partout le 30 décembre dans certaines villes du pays, notamment à Kinshasa, D'une manière globale, on est face à un regain d'insécurité un peu partout sur le territoire. Et cela a des conséquences sur le temps spécifique du Nord Kivu. Parce que la situation d'aujourd'hui était quelque peu prévisible, d'autant plus que durant toute l'année 2016, tout l'effort principal militaire et politique a été concentré sur la guerre contre le M23. Or, le M23 était un groupe armé parmi la trentaine d'autres qui écument à l'est du Congo. Et du coup, après la déroute de l'M23, il y a eu une sorte de jubilation assez exagérée au point qu'on a senti un certain relâchement au niveau de l'effort militaire, notamment par les FARDC. Et après cela, les initiatives qui ont été prises pour continuer l'action militaire envers les autres groupes n'étaient que plus par la MONUSCO que par les autorités congolaises. D'où la MONUSCO n'ayant pas non plus suffisamment de forces pour faire face à tout le groupe armé qui évolue particulièrement au Nord Kivu et devait limiter son action. Et de l'autre côté, avec le fait qu'il y a une prolifération de l'insécurité dans les provinces que j'ai citées, donc il y a notamment aussi le Maniema, les FARDC, sur le plan structurel, ne disposent pas suffisamment d'éléments d'effectifs d'unités combattantes suffisamment opérationnelles pour pouvoir faire face à la fois au Bakata-Katanga, au Katanga, aux Adenes-Nalou, à tous les groupes qui sont un peu éparpillés au Congo, ce qui fait que le Nord Kivu, avec l'effet du M23 et puis la calmie observée, certains groupes qui se sont réorganisés ont commencé à continuer leur travail.
Oui, Monsieur Rondo, le fait que les opérations contre les ADF Nalou n'ont toujours pas commencé, alors qu'elles étaient annoncées depuis plusieurs semaines, cela ne peut-il pas expliquer ces regains de tension?
Ben, ça explique parce que juste après la défaite du M23, la MONUSCO a déclaré qu'elle entreprenait, elle commençait, elle allait entreprendre les opérations contre les ADF Nalou, mais aussi contre les FDLR. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté comme si la MONUSCO se retrouvait plus ou moins seule à entreprendre ces actions. Alors que si on suit, par exemple, la déclaration d'hier de M. Kobler aux Nations Unies, il dit que, voilà, il est important que la MONUSCO travaille en coordination, donc même des actions conjointes avec les FARDC. Et là, on sent peu d'empressement, peu d'engagement par les autorités congolaises de mener des actions de type de celles qui ont été menées contre le M23, ce qui explique que voilà, les autres étant prévenus qu'il y aurait des actions contre eux, ils essaient de dévancer la situation, d'occuper le terrain et mettre les gens devant un fait accompli.
Oui, vous dites qu'il y a eu une sorte de relâchement de la part des FARDC, alors que récemment, les FARDC avaient, n'est-ce pas, confirmé l'annonce des opérations contre les ADF Nalou dans les Grands Nord, ça c'est au Nord Kivu, et il y a même les feux colonel Mamadou Ndala qui a trouvé la mort au moment où il était en train, d'installer des chefs militaires en prévision de ces opérations. Cela veut dire que les FARDC ne s'étaient pas découragés, ils continuaient, n'est-ce pas, dans ces processus de pacification de la province du Nord Kivu.
Oui, mais continuer avec quels moyens, avec quel effectif? Quand on parle du fait colonel Mamadou Ndala, on nous dit que ce garçon était sur le front depuis mai 2012. Or, dans la tactique militaire ou les opérations militaires, on ne peut pas maintenir un militaire pendant plus de 6 mois en opération. Le militaire doit être relevé. Et ce qu'on oublie, après la débandade du M23, beaucoup d'officiers, beaucoup d'unités ont été relevés de leurs opérations pour être déplacés ailleurs au Nord Kivu. Ce qui a permis le regain de violence ou d'insécurité dans la zone. D'ailleurs, vous vous rappelez que certaines zones qui étaient occupées par le M23 quelques temps après, ont signalé des massacres qui étaient commis par les autres groupes qui sont venus occuper le terrain. Et tout à l'heure, vous posez la question à des groupes de bâtons, mais pourquoi les FRDC ne sont pas venus occuper le terrain? Parce que les FRDC ne peuvent pas à la fois mener des opérations militaires et une fois des opérations accomplies, continuer à assurer ce qu'on appelle la fonction de police pour sécuriser les lieux. Parce que leurs effectifs ne permettent pas de pouvoir mener toutes ces unités, toutes ces opérations. Donc, il y a eu un début d'opération qui a commencé contre les Badef Nalou, mais ces opérations ne sont pas allées jusqu'au bout parce que il y a eu un gain de tension à Kinshasa, il y a eu des opérations au Katanga, il y a eu les Maïmaï à Kindu et on parlait même de l'emploi de 800 personnes en Centrafrique. Donc, tenir compte de tous ces éléments qui font que la capacité opérative actuelle des FRDC ne leur permet pas de pouvoir mener plus d'opérations pour sécuriser cette zone.
Et donc, cela veut dire que les opérations étaient prévues. Malheureusement, il y a eu des aléas qui ont fait que ces opérations ne sont pas menées.
Mais il y a des aléas, il y a aussi un problème de priorisation des actions. Comme je l'ai dit au début, après le 1-23, moi, on a assisté à une sorte de jubilation. C'est comme si l'objectif était atteint, il y a un relâchement. Et là, je renvoie à la déclaration de M. Kobler qui dit non, il faut poursuivre. Il a dit assez récemment, il a invité le gouvernement congolais à ne pas ralentir le rythme et à s'attaquer aux causes du conflit. Et quand il dit ça, c'est parce que, voilà, il rendu compte que, voilà, et quelque part, il n'y a pas un engagement aussi déterminant qu'on l'a senti contre le 1-23. Et de l'autre côté aussi, on voit déjà que le chef d'état-major qui se déplace à Beni, en discutant avec son homologue ougandais, mais de ce qui sort de ces entretiens, du moins du côté ougandais, parce qu'on a été un peu informé de ce côté-là, il serait question des opérations conjointes avec l'armée ougandaise, alors que la MONUSCO privilégie plutôt des actions conjointes avec la MONUSCO. Et pourquoi les FRDC ne sont pas capables de mener certaines actions seules ou avec la MONUSCO? Pourquoi doit-elle aller demander à l'Ouganda, qui, quelque part, dans la situation sécuritaire du Congo, reste juge et partie?
Merci, Monsieur Foller Lutachiwa. Je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Au sujet des Beni, c'est depuis 6 mois que les chefs coutumiers sont assassinés par des présumés rebelles ADF Nalu une fois de plus. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chefs coutumiers sont la cible de ces hommes armés?
Oui, nous considérons que dans cette partie-là, il y a énormément d'enjeux. D'abord, le fait que les ADF Nalu constituent le groupe armé le plus ancien ici à l'Est, à part les Maïmaï Simba dont on parlait dans les années 60, mais les ADF Nalu ont été constitués dans les années 1986. Donc, c'est le groupe armé, d'abord, qui est constitué essentiellement des étrangers, des Ougandais, mais aussi, c'est le groupe armé qui maîtrise sérieusement ce coin-là. Nous considérons qu'avec les séances de réconciliation, le dialogue social qui avait été organisé à Beni, conscientisant toute la population à se désolidariser des ADF Nalu, passant par les chefs locaux, les chefs coutumiers essentiellement, il se fait que les ADF Nalu est considéré comme une menace qui pourrait réduire leur emprise sur les populations, et cela pourrait justifier en partie l'acharnement que les ADF Nalu exercent sur les autorités locales et en particulier les chefs coutumiers. Mais il se fait aussi que localement et au niveau du voisinage le plus immédiat, c'est-à-dire à l'ouest de l'Ouganda, il y a lieu aussi d'identifier d'autres enjeux, d'autres pesanteurs expansionnistes, soit des hégémonistes, le fait que on puisse évincer cette chefferie Ouattalinga et faire de sorte qu'on dégage des espaces
mais il y a aussi d'autres enjeux environnementaux et même des enjeux économiques liés aux ressources bois, pétrole. Et donc, sur ce point-là, nous ne pensons pas que cette analyse puisse être exhaustive avec le temps qui est imparti à l'analyse.
Et donc, Monsieur le vice-gouverneur, l'autre explication, n'est-ce pas, par rapport à l'assassinat de ces chefs coutumiers, c'est cette volonté expansionniste de l'Ouganda sur certains territoires de la RDC?
Nous considérons que d'abord, contre les ADF Nalu, la sensibilisation qui a été faite après le dialogue social que l'autorité provinciale, son excellence le gouverneur, avait fait lui-même le déplacement, et à Beni, on avait conscientisé toutes les autorités locales, et parmi les recommandations et les résolutions, et qui étaient très très bien appliquées par les autorités locales de la chefferie de Watalinga, il fallait absolument se désolidariser avec les ADF Nalu. Et nous considérons que les ADF Nalu avaient considéré cela comme une menace. Et alors, avec les annonces imminentes des opérations militaires, il se fait qu'en partie cela justifierait l'acharnement des ADF Nalu contre les chefs locaux et particulièrement les chefs coutumiers. Mais le fait que cela puisse se concentrer particulièrement sur les chefs coutumiers pourrait cacher d'autres enjeux, et des enjeux de voisinage et particulièrement de l'ouest de l'Ouganda. Et nous considérons qu'il y a aussi énormément d'autres enjeux d'espace et des enjeux économiques. Et nous pensons que dès que les opérations vont se dérouler, on pourrait réduire ce carnage qui pèse sur nos populations dans cette chefferie.
Marcel Demata Diobakongo dit la situation au Nord Kivu est comme l'iceberg dont on ne voit que la petite partie qui sort de l'eau. On vient de finir avec le 1-23. Qu'est-ce qui manque pour finir avec des petites groupes armés qui continuent à endeuiller le pays? On nous cache les vrais problèmes. Monsieur le vice-gouverneur, quels sont les problèmes que vous cachez à la population congolaise? Vous avez évoqué des enjeux économiques. Qu'est-ce qu'on aurait découvert à Beni et qui pousserait, n'est-ce pas, les pays voisins à vouloir contrôler, n'est-ce pas, les ressources qui seraient dans ces territoires?
En fait, nous ne cachons rien. C'est fait que je viens de vous dire que les ADF Nalu, c'est le groupe armé le plus ancien qui écumait le secteur de Rwenzori, la chefferie d'Akalinga, une grande partie du territoire de Beni. Et il se fait que le territoire de Beni, qui jusque-là n'était sous l'emprise d'aucun autre groupe armé étranger, parce que les autres cinq territoires, pratiquement, ont subi le joug des FDLR. Il se fait que c'est le seul territoire de Beni qui était relativement épargné. Et on ne cache rien, il y a toujours ces groupes armés qui sont approvisionnés en armes, mais qui sont impliqués aussi dans le pillage des ressources naturelles. Et c'est un défi auquel nous faisons face depuis bientôt, maintenant, quelques décennies, pratiquement deux décennies.
Merci. Monsieur Thomas Dakin Mouti, vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Mbujimayi au Kasai oriental.
Galvani Diouf, Placide Mbujimayi au Kasai oriental. Cette situation prouve à suffisance comment la paix est encore volatile dans cette partie du pays et dont le commandement militaire et ses partenaires doivent mettre en place des mesures contraignantes et dissuasives, et aux autorités locales de renforcer la sensibilisation des jeunes à renoncer à la vie des groupes armés, et au gouvernement, on ne le cessera jamais de le dire, de rendre la vie civile des jeunes très attrayante et celle menée dans les groupes armés, mais aussi renforcer les programmes de réintégration socio-professionnelle des jeunes dissidents des groupes armés.
Monsieur Dakin Mouti.
Oui, à l'écoute.
Votre réaction par rapport à cette intervention de Galvani Tiouk d'un Mbujimayi au Kasaï oriental?
Mon ami du Kasaï oriental ne fait que répéter ce que j'ai dit. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il a raison. Il a raison. La situation reste encore préoccupante. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais revenir à la question que vous avez posée au vice-gouverneur par rapport à la tuerie, aux assassinats ciblés des chefs coutumiers en territoire de Beni. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu, il y a des groupes armés étrangers qui opèrent sur le sol congolais en faveur de pays de provenance. C'est à souligner. Nous avons à son temps parlé des FDLR qui travaillaient pour le compte du Rwanda, des FDLR recyclés par le gouvernement rwandais, et pour l'Ouganda, les ADF Nalu aujourd'hui travaillent en faveur du gouvernement ougandais. Ils sont envoyés pour faire quoi? Pour l'Ouganda, la réponse à la question, c'est de dire l'Ouganda, le Rwanda n'ont pas lâché le plan de balkanisation de la RDC. C'est-à-dire sur le territoire, sur la partie du territoire de Beni, l'Ouganda voudrait récupérer une partie du territoire de Beni, notamment la chefferie de Watalinga et le secteur de Rwenzori. Ils ont sensibilisé. Vous savez que de l'autre côté de la frontière en Ouganda, il y a des Nandés, qu'on appelle les Bakonjo, mais qui parlent sérieusement les Kinandés. Et du côté congolais, le Rwenzori, le Watalinga, ce sont des Nandés. Et donc, pour l'Ouganda, il y a eu des émissaires qui ont été envoyés pour demander aux populations de Watalinga et de Rwenzori d'accepter qu'il y ait la balkanisation de cette partie qui est séparée par le Semouriki, qui prend la partie jusqu'au côté de Kassindi, sur le lac Edouard, et pour que cette partie soit d'office annexée sur le gouvernement, sur la partie ougandaise, et cela à cause de l'or qui est dans cette partie, le pétrole qui est dans cette partie, et pour l'Ouganda, il fallait que cette population qui parle Kinandé et qui est frère à la population Bakonjo, qu'il puisse accepter que cette partie soit cédée à l'Ouganda. Et ce sont les chefs coutumiers qui ont dit, nous sommes Congolais, nous les restons. C'est comme ça que l'Ouganda est en train d'envoyer ces terroristes, les Al-Shabaab, accompagnés des ADF Nalu, qui sont aujourd'hui supposés comme un groupe armé contre l'Ouganda, mais en soi, le fait que l'Ouganda appuie les Al-Shabaab, et les Al-Shabaab qui travaillent avec les ADF Nalu, rien ne peut nous empêcher de dire que donc les ADF Nalu travaillent pour le gouvernement ougandais. Et c'est ça le secret. Donc, s'ils sont en train de massacrer les chefs coutumiers, s'ils sont en train d'enlever la population, s'ils sont en train de faire fuir la population sur cette partie du territoire congolais, c'est pour que cette partie soit vidée de sa population, soit vidée de ses autorités coutumières, et que, en un certain moment, cette partie soit vide et que l'Ouganda commence à exploiter l'or et le pétrole sans beaucoup de contraintes. C'est ça le secret. Et donc,
merci Thomas Dakemwiti. Jean-Jacques Wondo, vous venez de suivre le président de la société civile du Nord Kivu qui accuse l'Ouganda, n'est-ce pas, d'instrumentaliser les ADF Nalu parce qu'il voulait contrôler certains territoires de la RDC. Et comment vous analysez, n'est-ce pas, les explications du président de la société civile du Nord Kivu?
Oui, globalement, je vais abonder dans le même sens parce que si vous constatez la situation qui prévaut au Nord Kivu depuis les événements avec le M23, on assiste à une sorte de jeu de relais entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire que chaque fois qu'un pays est en difficulté, il y a un autre qui vient le relayer et essaie un peu de l'étouffer ou de laisser se reposer le premier. Je m'explique. 2014, c'est une année symbolique pour le Rwanda, notamment dans les festivités des 20 ans du génocide.
Et après tous les événements qui sont déroulés à l'est du Congo, le Rwanda, notamment Kagame, a été mis sous pression. Il était devenu sous le plan international quasiment ce qu'on appelle une personne non grata. D'où le profil bas qu'il a adopté les derniers mois, notamment en restant discret dans ses soutiens au M23. Le tout est dans une stratégie de vouloir faire de sorte que les événements, les commémorations de, du génocide puissent attirer le plus grand monde possible, le plus de monde possible, pour se donner une certaine virginité diplomatique. En même temps, vous verrez que le Rwanda a été un des premiers pays à aller soutenir ou à dire qu'il allait envoyer 800 hommes en Centrafrique.
Mais c'est
pendant que le Rwanda était en difficulté, vous verrez que le M23 est allé se réfugier de l'autre côté en Ouganda. Et là, tout l'enjeu se tourne là. Si vous voyez le dernier rapport qui vient de sortir, on parle de l'or qui est exporté principalement par l'Ouganda. C'est une perte pour le Congo. Donc, c'est, qui gagnerait dans la situation d'insécurité au Congo, ce n'est pas le Congo, c'est l'Ouganda. C'est-à-dire que si on instaure la sécurité, la paix, ou on restaure
le Congo,
il y aura un manque à gagner pour l'Ouganda. Donc, l'Ouganda instrumentalise certains groupes armés au Congo, et avec la crainte de pouvoir injecter le surplus du M23 dont ils ont signalé à 1600, qui sorte de quelqu'un qui ne comprend pas.
Jacques,
et surtout que actuellement on parle d'une possibilité des opérations conjointes. Là, c'est comment il faut attirer l'attention de la population. Ça peut être, à mon avis, un choix judicieux de la part des autorités congolaises, parce que si le Congo se met aujourd'hui à lancer une opération
au Chaweto,
nous risquons de connaître les mêmes conséquences qu'il y a en 2009.
Merci, Monsieur Feller Utaishiwa. Vous êtes vice-gouverneur du Nord Kivu. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga au Kasaï occidental. La situation actuelle du Nord Kivu est la conséquence logique de la mauvaise lecture faite par la communauté nationale et internationale qui croyait que l'éradication du M23 devrait à elle seule stabiliser la partie est du Congo et elle ne pouvait donner un impact sur les autres groupes armés, oubliant que les autres groupes armés avaient une même capacité de nuisance que le M23.
Oui, monsieur le gouverneur, y aurait-il un problème de mauvaise lecture par rapport à la situation sécuritaire au Nord Kivu? Ça sera aussi votre conclusion.
Nous pensons que ce soit la population, que ce soit les autorités locales, que ce soit les autorités centrales, nous sommes tous conscients de l'ampleur du défi et nous considérons qu'il y a des stratégies qui sont définies à tous égards au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, mais aussi au niveau des partenaires, au niveau de la MONUSCO, et au niveau de la sous-région. C'est pour ça qu'il y a des processus avec des mécanismes de suivi.
Merci.
Nous considérons qu'avec les opérations militaires, couplé de toutes ces stratégies.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Monsieur Thomas Dakenwiti, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, la société civile demande qu'il soit accéléré, qu'il soit mené des opérations accélérées avec les FARDC et la FIB pour mettre fin à l'activisme des ADF.
Merci.
Ça, c'est un.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.